C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Claire Poinsignon, prise de son Alexandre Dang, réalisation Didier Lagarde. Samedi prochain, l'émission aura pour titre « Il était une fois la langue française » et mes invités seront Renaud Camus et François Taillandier. Il est l'heure de retrouver Jean-Noël Jeanneney.
Dans un ouvrage intitulé « Le grand espoir du XXe siècle », publié il y a plus de 50 ans, en 1948, Jean Fourastier annonçait déjà la fin imminente du travail industriel et le passage à une société de service. Au travail dur de l'homme sur la matière, qui est le propre d'une économie industrielle, allait se substituer, selon Fourastier, le travail plus doux d'une économie où l'on devient médecin, enseignant, psychanalyste, où la matière travaillée par l'homme est tout simplement l'homme lui-même. Le grand espoir de Jean Fourastier, en bref, était que l'économie devienne enfin humaine. C'est peu dire que ce grand espoir est devenu pour bon nombre de gens une grande déception. Non pas que Jean Fourastier se soit trompé en annonçant l'avènement d'une société de service. Comme il l'avait parfaitement prévu, le travail industriel tend à disparaître de l'horizon de nos économies. Et aujourd'hui, 16% seulement des emplois sont encore dans l'industrie. S'il y a déception, c'est que le travail n'est en fait nullement devenu moins pénible pour autant. Le stress est devenu un élément permanent de la vie professionnelle, comme en atteste le nombre de dépressions, l'emploi des tranquillisants en constante progression. Mais aussi, paradoxe plus étonnant au regard des prévisions optimistes de Fourastier, la pénibilité physique du travail ne cesse de croître également. Le nombre de travailleurs qui se plaignent de porter des objets lourds, d'être astreints à une posture fatigante, a quasiment doublé au cours des 30 dernières années. Résultat, toutes catégories confondues, les accidents du travail connaissent, depuis plus de 20 ans, une augmentation considérable. Alors, pour essayer de saisir la nature de ce phénomène, je suis heureux d'accueillir Philippe Askenazy, chercheur au CNRS, dans l'unité du campus Jourdan de l'École normale supérieure, qui a publié tout récemment, à La République des idées, un livre intitulé « Les désordres du travail ». Philippe Askenazy, bonjour.
Bonjour.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse, si vous le voulez bien, tout d'abord à cette recrudescence des accidents du travail. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler très brièvement les principales données ?
Alors, ce phénomène est d'abord apparu dans les pays d'Amérique du Nord, en particulier les États-Unis, où à métier donné, à partir du milieu des années 80 jusqu'au début des années 90, on a connu une hausse de l'ordre de 20 à 30% de la fréquence des accidents du travail. Alors en Europe, plus particulièrement en Europe du Sud et en France, cette augmentation date du début des années 90. Alors dans un premier temps, la tertiarisation que vous avez évoquée précédemment a caché ce phénomène. Mais disons depuis 1997...
Elle a caché parce que les accidents étaient quand même moins nombreux dans
les moins nombreux, dans voilà, étaient moins nombreux. L'industrie déclinait très fortement en Europe et donc on avait l'impression qu'on avait une amélioration qui continuait en quelque sorte pour la sécurité des salariés. Mais depuis 1997, on voit un renversement avec une augmentation de la fréquence des accidents globale du travail et surtout de la gravité de ces accidents. Les dernières données que l'on dispose sur la France, c'est une augmentation entre 2001 et 2002 de 9%. Donc on a une accélération du phénomène. Et au total, des pays comme la France ou l'Espagne font partie des pays les plus dangereux lorsque l'on va au travail.
Très bien. Alors, ce diagnostic étant fait, est-ce qu'on peut essayer de venir brièvement à l'analyse des causes ? Alors moi, il me semble qu'on peut essayer d'en séparer deux, qui ne sont pas forcément contradictoires, mais qui envoient à des problèmes différents. Est-ce qu'on peut dire d'abord que dans le tertiaire lui-même, il y a un immense malentendu, en fait, dont Fourastier est peut-être à l'origine, qui consiste à penser qu'une société tertiaire C'est une société où il n'y a que des relations entre les personnes, alors que peut-être au fond, c'est une société qui reste habitée par un monde d'objets. Une société tertiaire, c'est d'abord une société où on vend des objets, donc il faut les déplacer, il faut les réparer. En réalité, il y a un malentendu ici sur la pénibilité du travail tertiaire. Et puis, autre explication, je pense qu'il faut essayer de pondérer les deux, c'est tout simplement le capitalisme dans son ensemble, tertiaire ou industrie confondue, qui a changé les pratiques du travail et qui les a rendues d'une certaine façon plus dangereuses. Est-ce qu'on peut revenir sur le poids de ces deux causes ?
Alors, pour ce qui est du tertiaire, le tertiaire est extrêmement hétérogène. Alors, effectivement, on est très loin d'avoir uniquement des enseignants, des psychanalystes. Il y a tous les métiers de la santé, tous les métiers du commerce qui ont leur propre pénibilité. Alors, par exemple, dans le commerce de gros, on a des pénibilités qui sont très proches de celles que l'on peut constater dans le secteur industriel. Dans d'autres secteurs, on a le contact avec le public lui-même qui est une source de contraintes et de pénibilité pour les travailleurs. Mais en quelque sorte, si vous voulez, derrière cela, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas plus véritablement de pénibilité naturelle dans ces métiers-là. Alors, en revanche, ce qui provoque la dégradation que l'on connaît depuis une bonne décennie en France, c'est les changements organisationnels qu'ont mis en place les entreprises. Et on le constate tous les jours en tant que client, mais aussi en tant que travailleur. On voit l'émergence de ce que j'ai qualifié dans mon ouvrage de productivisme réactif.
De néo-sakhanovisme.
Oui, je parlais aussi néo-sakhanovisme, une idée d'urgence permanente, de recherche d'optimisation de la part de l'entreprise, et tout cela se traduit parce que les chercheurs en sciences sociales qualifient d'intensification du travail qu'on retrouve à la fois dans l'industrie et dans les services et qui correspond à un cumul de contraintes, à la fois des contraintes psychologiques et des contraintes physiques. Si vous voulez, c'est cela la nouveauté, ce n'est pas tant les contraintes physiques en elles-mêmes et les contraintes psychologiques, mais c'est la somme des deux,
leur
croisement qui touche l'ensemble des métiers. Et lorsqu'on ne prend pas en compte dans l'entreprise le facteur humain et que l'on impose ces changements organisationnels, eh bien cela se traduit, c'est prouvé par de nombreux travaux statistiques, par un impact délétère sur la santé mentale, comme sur la santé physique, et on a parlé des accidents du travail, mais on a de la même manière une très forte augmentation des maladies professionnelles, type par exemple troubles musculo-squelettiques, qui ont été multipliés par 10 en une décennie.
Alors, pour avancer un peu, un des aspects les plus singuliers de votre livre, le plus inattendu, c'est de montrer qu'aux États-Unis, qui est d'une certaine manière la matrice, la mère de toutes ces transformations, et qui a été en pointe, vous le rappeliez tout à l'heure, de l'augmentation des accidents du travail, on assiste curieusement, peut-être d'un point de vue occidental, certainement d'un point de vue français, dans la deuxième moitié des années 90, à une inversion de cette tendance. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement un peu les choses qui ont contribué à cela ?
Alors déjà, le renversement est véritablement net, c'est-à-dire qu'on a un spectaculaire reflux du nombre d'accidents et de maladies professionnelles de l'ordre de 40%, disons depuis le milieu du premier mandat Clinton, c'est-à-dire 94-95. Et dans le même temps, on a vu un effondrement de l'absentéisme dans les entreprises américaines, également dans la même proportion de l'ordre de 40%. Et au total, tous les indicateurs de bien-être au travail ont eu tendance à s'améliorer aux États-Unis. Alors lorsqu'on est chercheur, on essaie de comprendre d'où vient ce phénomène et on prend un microscope, on essaie de voir industrie par industrie ce qui l'advient. Et finalement, il faut arriver au niveau de l'entreprise pour arriver à comprendre véritablement ce qui s'est passé. Et là, on se rend compte que certaines entreprises ont totalement changé leur mode d'approche du travail, ont fait des politiques de prévention, d'autres n'ont pas véritablement bougé. Donc le problème est de comprendre pourquoi, d'un seul coup, des entreprises ont utilisé les marges de manœuvre considérables dont elles disposent pour améliorer les conditions de travail de leurs salariés, les ont utilisées, et cela sans obérer leur compétitivité. Alors, dans mon ouvrage, je liste un certain nombre de facteurs qui ont joué, mais disons, un des premiers facteurs est un renouvellement de l'action syndicale. Alors, ce n'est pas tant le taux de syndicalisation qui a augmenté, mais véritablement des actions nettement plus dures, avec des raids syndicaux, une utilisation démocratique de l'outil Internet pour informer sur des mauvaises conditions de travail dans les entreprises. Et cela a permis, par exemple, à travers des forums de discussion, aux salariés de se rendre compte que les problèmes qu'ils vivaient comme individuels étaient réellement collectifs.
Eh bien, Philippe Askenazy, merci. La seule chose qu'on puisse souhaiter à la France, c'est de suivre la même évolution. C'était Économie pratique, économie savante, par Daniel Cohen. Prise de son, Ariane Herbé. Réalisation, Franck Lilin.
Écoutez, vous êtes sur France Culture.
France.
Chers auditeurs.
Culture.
Chers auditeurs.
Je suis en écoute de France Culture.
Quand je veille, je mets la radio et parfois j'écoute les gens parler.
Vous êtes sur France Culture.
De la confusion de langage et de la traduction mutuelle entre langages.
France Culture.
Quelle est la vie d'un poète?
Mais j'ai envie de dire, tout le monde est poète et en fait, quand tu éclates de rire, j'ai envie de dire que tu es poète.
France Culture donc.
Écoutez, vous êtes sur France Culture.
Oui, écoutez France Culture.
Allez en route, oiseau.
Et Houston.
Sur la Terre, vous pouvez écouter France Culture via l'internet. franceculture.com.
Qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Celui-ci n'est pas mal. C'est un Gaulois.
Oh, que horreur des Gaulois. Trop de poils. A-t-il la force de descendre ici tout seul? Approche-toi, descends. Descends.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage que là, les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire, les problèmes qui sont différents.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un rendez-vous qui sera désormais, vous l'avez compris, reporté 10 minutes plus tard que précédemment, 10 minutes après 10 heures. Mais j'ajoute aussitôt, qu'une nouvelle diffusion, le dimanche de 16h30 à 17h20, permettra une écoute ou une réécoute aux auditeurs qui auraient éprouvé de la douleur vraiment atroce de manquer Concordance des temps, en tout ou en partie, le samedi matin, ou qui n'en seraient pas rassasiés.